Donc Sylvie Servoise est maître de conférence depuis cette année à l'Université du Maine, au Mans, donc exactement. Elle a fait une thèse sous la direction d'Emmanuel Bouju à l'Université de Rennes sur la littérature engagée depuis 1945 et sur l'écriture de l'histoire. Et cette thèse qui va être publiée aux presses universitaires de Rennes en 2011, janvier 2011 ?
Oui, début 2011.
Début 2011, voilà. Elle va nous présenter... J'oublie rien.
Non, mais j'ai rencontré l'œuvre de Volodine à l'occasion
oui,
de ma thèse.
Oui, voilà, effectivement, l'œuvre de Volodine était dans le corpus de sa thèse sur la littérature engagée. Et elle va nous parler de présentisme et post-exotisme comme frères ennemis.
Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais brièvement revenir sur ce qui m'a amené à proposer cette communication et à mettre en relation ces deux termes, ces deux notions de présentisme et post-exotisme. Cela me semble d'autant plus nécessaire que dans la critique volodinienne, comme ailleurs dans le champ littéraire, le premier terme, présentisme, a quelquefois mauvaise presse. Et c'est le moins qu'on puisse dire lorsqu'on songe, par exemple, au titre de l'avant-propos de défense et illustration du post-exotisme en 20 leçons, intitulé « Contre le présentisme, le post-exotisme ». Donc je n'irai pas jusqu'à renverser la proposition sous la forme d'un « avec le présentisme, le post-exotisme », mais je voudrais montrer ici en quoi l'édifice post-exotique, par la configuration du temps qu'il déploie, le rapport entre passé, présent, futur qu'il expose, par la place centrale qu'il accorde à la mémoire, individuelle et collective, au deuil, aux utopies déchues, à la fidélité à l'égard d'un héritage, etc., dit quelque chose sur notre époque, notre relation à l'histoire et au temps, notre historicité, en somme, et que ce quelque chose n'est pas sans rapport avec la notion forgée par François Hartog dans « Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps ». La première partie de la proposition, le post-exotisme dit quelque chose de notre époque, n'est pas nouvelle. Et je renvoie ici notamment aux travaux de Lionel Ruffel, qui, voyant dans l'œuvre de Volodine une forme exemplaire et singulière de résistance au discours et à l'idéologie des fins, envisage le post-exotisme comme la figuration de ce moment des mutations de paradigmes esthétiques et politiques de la fin du XXe siècle qu'il propose de nommer le dénouement. La seconde partie de la proposition, selon laquelle cette configuration temporelle résultant d'une position dans et face à l'histoire a partie liée avec le présentisme, peut en revanche poser problème. Pourquoi ? C'est que la notion de présentisme a provoqué un certain nombre de malentendus, dont le plus lourd consiste à l'inscrire dans le cadre des multiples discours de la fin. Le présentisme serait un temps immobile, exclusivement préoccupé de lui-même, synonyme de perte du sens de l'histoire, de refuge dans un présent individualiste, sans mémoire et sans avenir. Il serait ce présent absolu que le narrateur de « Tigre en papier » d'Olivier Rollin, nostalgique du temps des révolutions, brocarde. Il doit y avoir un rapport, dit-il à une jeune fille représentante de la nouvelle génération, entre votre culte naïf du bonheur individuel, à vous autres les ultramodernes, et le fait que vous soyez si foutrement ignorants de ce qu'est l'histoire. Vos modèles à vous, vous les trouvez dans la pub, cette espèce d'éternité de pacotille qui est le contraire de l'histoire. Fin de la citation. En somme, le présentisme serait l'autre nom de la fin de l'histoire qui, elle-même, la référence à la publicité nous l'indique, ne serait que l'accomplissement de l'histoire dans un capitalisme triomphant et un libéralisme rédempteur. Or, de la même façon que certains philosophes se sont efforcés de penser l'après du communisme et de montrer que cette fin ne débouchait pas sur le vide, mais sur une transformation par le biais d'un héritage qui ouvre à l'avenir, Hartog avance que l'effondrement de ce qu'il nomme le régime moderne d'historicité, fondé sur la conception d'une histoire linéaire, orientée vers le progrès, laisse la place à un nouvel ordre du temps qu'il baptise du nom de présentisme. étroitement lié à la remise en cause du futur comme principe d'intelligibilité de l'histoire et comme synonyme de progrès, le présentisme se caractérise, pour Hartog, par la domination certes d'un présent perpétuel, mais qui tendrait, et c'est ce que l'on oublie souvent, à actualiser le passé et l'avenir par le biais d'une mémoire omniprésente et d'un sentiment de responsabilité accrue à l'égard des générations à venir. La notion de présentisme proposée par Hartog constitue donc bien une réponse au discours des fins qui postule, après la mort de Dieu et des idéologies, celle de l'histoire. C'est dans cette perspective que j'envisage de traiter ici les liens qui peuvent unir le présentisme à l'œuvre volodinienne avec les exigences de ne pas réduire les complexités de l'un et de l'autre aux besoins de la démonstration. Si on veut demeurer au plus près de la définition hartogienne du présentisme, il ne s'agit pas non plus de vouloir faire de l'œuvre volodinienne un exemple de littérature présentiste. Au contraire, il me paraît particulièrement intéressant de voir comment celle-ci réfléchit, à tous les sens du terme, le régime d'historicité contemporain. Autrement dit, comment, non pas malgré, mais au contraire en vertu de son caractère singulier, l'œuvre volodinienne s'inscrit dans des préoccupations d'époque qu'elle reconfigure, mettant au jour les contradictions, les abus ou les dérives de notre rapport contemporain au temps et à l'histoire. Donc avant de rendre compte de cette relation, moins problématique donc que problématisante du post-exotisme au présentisme, je souhaiterais préciser davantage la définition de ce dernier terme. Donc premier mouvement de cet exposé, qu'est-ce que le présentisme ? Je viens de le dire à l'instant, le terme de présentisme est devenu un mot passe-partout, répété à l'envi, ici pour décrire la célébration de l'instant et de l'oubli de l'histoire, là pour dénoncer les dérives de la société de consommation qui, faisant du temps une marchandise, valorise l'éphémère et frappe d'obsolescence les mots, les choses et les hommes de plus en plus vite. Or, loin d'être une joyeuse ode à l'ici et maintenant, le présentisme tel que le définit Hartog est un temps inquiet qui procède directement de l'effondrement du régime moderne d'historicité. Donc je rappelle que l'historien définit la notion de régime d'historicité comme un instrument heuristique permettant de s'interroger sur les modes d'articulation des trois catégories du temps que sont le passé, le présent et le futur, dont une collectivité se dote pour réfléchir sa propre expérience de l'histoire. S'appuyant notamment sur les travaux de Reinhard Koselleck, auteur de « Le futur passé ». Il affirme que le régime moderne d'historicité, né de la révolution industrielle et de l'héritage des Lumières, se définit par la fascination pour l'avenir, essentiellement envisagée en termes de progrès, par le sentiment d'une accélération du temps, par le rejet plus ou moins radical des expériences issues de la tradition et par la naissance d'un nouveau concept d'histoire. L'histoire est alors identifiée à un processus autonome qui posséderait un temps propre, distinct du temps naturel comme du temps divin, et qui s'envisagerait comme factible. L'histoire devient ainsi l'objet, dans le régime moderne d'historicité, de nombreuses philosophies de l'histoire au cours des 19e et 20e siècles, depuis le positivisme jusqu'au marxisme. L'effondrement de ce régime se traduit, selon Hartog, par deux phénomènes majeurs. La crise de l'avenir, d'une part, et l'omniprésence de la mémoire, d'autre part. Encore faut-il bien comprendre ce que l'on entend par ces deux expressions. On sait que la notion de crise de l'avenir, destinée à alimenter efficacement et durablement le discours des fins et la politique et la polémique, pardon, mais c'est aussi idéologique en tout cas, la polémique autour de la postmodernité, se développe en Europe à la fin des années 1970. Dans l'article d'ouverture du premier numéro de la revue Le Débat, intitulé « Que peuvent les intellectuels ?» et paru en 1980, Pierre Nora, historien, diagnostique ainsi la fin, je cite, de la perspective d'un avenir. Du XVIIIe siècle, je cite Pierre Nora, jusqu'à l'aube de ce que l'on pourrait appeler l'âge des sciences humaines, les différents types de rapports historiques à l'histoire avaient tous quelque chose de fondamental en commun, la perspective d'un avenir qui dépendait des hommes. Cet avenir, trois schémas ont permis de le penser. la restauration de l'ordre ancien, le progrès, la révolution. Or, d'après Pierre Nora, ces trois schémas, je cite, sont morts, et du même coup l'avenir, cet avenir qui donnait à l'histoire, aux deux sens du mot, sa fin. Christophe Pomian, dans son article « La crise de l'avenir », publié quelques mois plus tard dans la même revue, développe cette idée en présentant comme de moins en moins possible, je cite, « le fait de concevoir un avenir qui soit simultanément accessible et souhaitable. L'avenir qu'on affirme le plus probable, poursuit-il, ne saurait être pire. » Ce que révèle cette crise de l'avenir, ce n'est donc pas tant l'effacement de la notion de futur que l'émergence d'un futur vide, qui ne se remplit plus d'attentes structurées par notre puissance d'imaginer l'avenir comme désirable. Il s'agit donc bien, en dernière instance, d'un retournement. Le futur, désarticulé de l'idée de progrès, n'est plus promesse ou principe d'espérance, mais incertitude et plus encore menace. Mais la crise de l'avenir n'est pas le seul élément de perturbation du régime moderne d'historicité. En même temps que le futur devient menace, le passé revient avec force autour des notions de mémoire, de patrimoine, commémoration, qui occupent le débat politique, historique et médiatique. L'actuelle flambée de la mémoire traduit et induit un rapport inédit avec le passé. Celui-ci n'est ni exclusivement conçu comme source d'enseignement, comme dans le régime ancien d'historicité, on tire des leçons du passé, ni comme genèse d'un monde meilleur à venir, comme dans le régime moderne d'historicité. Le passé servirait plutôt, par le biais d'une mémoire omniprésente, à nous indiquer ce que nous sommes à la lumière de ce que nous ne sommes plus, comme l'indique Pierre Nora dans « Lieu de mémoire ». Dès lors, on peut se demander si les deux éléments majeurs qui définissent l'ordre du temps de nos sociétés occidentales, la crise de l'avenir et le règne de la mémoire, ne sont pas les signes d'un nouveau régime d'historicité. C'est en tout cas ce que suggère François Hartog, qui, découvrant dans le développement de ces deux phénomènes l'indice de la montée rapide de la catégorie du présent, a forgé la notion de présentisme, afin de décrire une situation dans laquelle, je cite, « le présent est devenu l'horizon ». Un présent qui, je cite toujours, « sans futur et sans passé, engendrerait les deux en permanence selon nos besoins ». L'auteur de « Régime d'historicité » propose d'inscrire le régime moderne entre les deux dates symboliques que sont 1789 et 1989. Ces dates constitueraient, je cite, « deux césures, deux failles dans l'ordre du temps ». Le terme de césure, employé ici par Hartog, est important, car il nous met en garde contre toute tendance à faire de la notion de régime d'historicité une entité transcendante qui se serait imposée de façon aussi soudaine qu'universelle. Les crises du régime moderne ne datent pas de 1989, et la montée du présentisme est un phénomène du temps long qui marque non pas l'exclusivité, et là j'insiste, mais la domination d'un point de vue, en l'occurrence le présent, sur le temps. Ce que dit Hartog, ce n'est donc pas qu'il n'y a que du présent, mais que tout le passé et le futur s'accumulent dans le présent, un présent alors vécu sous le signe d'une double dette, à l'égard d'un passé honteux et d'un futur menaçant. Hartog définit ainsi ce présent dilaté. Une citation un peu longue. Ainsi, le présent s'est étendu tant en direction du futur que du passé. Vers le futur, par les principes de la précaution et de la responsabilité, par la prise en compte de l'irréparable et de l'irréversible, par le recours à la notion de patrimoine et à celle de dette qui réunit et donne sens à l'ensemble. Vers le passé, par la mobilisation de dispositifs analogues. La responsabilité et le devoir de mémoire, la patrimonialisation, l'imprescriptible, la dette déjà. Formulé à partir du présent et pesant sur lui, ce double endettement marque l'expérience contemporaine du présent. Par la dette, on passe des victimes du génocide aux menaces sur l'espèce humaine, du devoir de mémoire au principe de responsabilité. Pour que les générations futures aient encore une vie humaine et se souviennent de l'inhumanité de l'homme. Le présentisme serait donc ce temps dominé par un présent monstre, paradoxalement extensif et emprisonnant. Je cite Hartog, « Nous ne cessons de regarder en avant et en arrière, mais sans sortir d'un présent dont nous avons fait notre seul horizon. Si on résume, avenir fermé, rapport au passé médiatisé par la mémoire, fidélité à un passé qui ne passe pas et dont quelque chose doit être, malgré tout, sauvé, transmis, tension entre une ouverture maximale au passé et à l'avenir à partir d'un lieu clos, ce sont là des éléments caractéristiques de cette nouvelle ordre du temps contemporain qu'Hartog nomme le présentisme et qui recoupent certaines caractéristiques de l'œuvre volodinienne. Il convient donc de vérifier à l'épreuve des textes, d'une part ce que vaut cette hypothèse d'une coïncidence ou d'une convergence entre post-exotisme et présentisme, et d'autre part, comment comprendre cette relation. Non pas tant le post-exotisme comme forme de présentisme, que comme miroir déformant du présentisme qui en révélerait les failles ou les apories. Je passe donc à ma deuxième partie, les éléments du présentisme dans l'œuvre volodinienne. Donc, plusieurs éléments structurants du post-exotisme peuvent se lire dans la perspective présentiste esquissée à l'instant. Je n'en évoquerai que trois, les plus visibles. Tout d'abord, l'ancrage des récits dans une temporalité d'après la fin, qui enregistre la fin des utopies, la défaite de l'utopie plutôt, révolutionnaire, et la crise des lendemains qui chantent. Ensuite, l'attention vers le passé et le rôle central occupé par la mémoire. Enfin, un rapport médiatisé à l'histoire, dont ne subsistent que des traces, qu'il s'agit de préserver et de transmettre. On sait que l'univers post-exotique où se meuvent les personnages, les narrateurs de Volodin, est toujours un monde de l'après, un monde de ruines, un monde post-apocalyptique. Le début de l'histoire, aux deux sens du terme, est toujours après la fin, et il suffit pour s'en convaincre de lire les premières lignes des textes. La révolution était morte une fois de plus et même très morte, le nom des singes. L'espace avait la consistance d'une ruine familière, Nuit blanche en Valkyrie. Dondog, dans le roman éponyme, n'échappe pas à la règle, se situant, au moment où il prend la parole, au début du récit, dans un temps qui se situe, je cite, « à de courtes années de la clandestinité totale, quand jour après jour se perdait la guerre pour l'égalitarisme ». Au rescapé des révolutions qui ont tourné court ou mal tourné, confronté à un présent de ruines et de désolation, le futur n'offre guère une perspective plus consolante. Au contraire, la crise de l'avenir, dont on a souligné plus haut le rôle essentiel qu'elle jouait dans le régime présentiste, est présente dans chaque page et constitue une coordonnée fondamentale de la temporalité post-exotique. À un niveau collectif, non seulement aucun espoir de révolution n'est possible, les défenseurs de l'égalitarisme étant condamnés par une singulière aptitude à la défaite, à une déroute permanente, je cite Nuit blanche en Valkyrie, mais l'humanité elle-même est menacée d'extinction, comme on le voit par exemple dans Les Anges mineurs ou encore dans Songe de Melvido. À un niveau individuel, même si l'on sait combien la frontière entre individuel et collective, collectif est poreuse dans l'univers post-exotique, les rescapés survivants du naufrage égalitariste sont eux aussi condamnés à une mort prochaine, à l'image de Dondog, dont on apprend dès les premières pages, même dès les premières lignes du récit, qu'il n'en a plus pour très longtemps, quelques jours au maximum. C'est que le personnage, comme beaucoup d'autres figures post-exotiques, évolue dans cette temporalité inédite du bardo, cet entre-deux qui, selon la leçon du livre des morts du bouddhisme tibétain auquel Volodin se réfère dans plusieurs de ses livres, sépare la mort physique et la mort terminale. On retrouve ainsi, dans ce schéma temporel qui parcourt l'ensemble de l'édifice post-exotique, deux traits en écho à l'historicité présentiste, le deuil des utopies et la perte de confiance en l'avenir, devenu aussi sombre que menaçant. Mise à l'écart du monde dans un système clos, la cellule, le camp, le port intérieur, le black corridor du bardo, les personnages sont bien prisonniers d'un présent qui n'est autre que le temps de l'articulation entre l'attente de la fin et la rumination d'une existence à jamais révolue. Mais cet arrêt du cours de l'histoire ne saurait pour autant être un temps immobile. Et si on peut parler de dynamique dans l'œuvre volodinienne, c'est la mémoire, entendue comme surgissement du passé dans le présent, c'est à la mémoire qu'il faut maintenant s'intéresser. L'auteur a à plusieurs reprises souligné le rôle du passé dans la narration et le monde post-exotique, mettant l'accent sur son pouvoir de suggestion et sa force d'impulsion poétique. Ainsi, dans son intervention à la Bibliothèque nationale citée ce matin, en 2006, intitulée « À la frange du réel », je cite « Pour les créateurs post-exotiques, le quotidien est une grande laideur, et il ouvre sur un présent infiniment morne, doublé d'un avenir nul. Les fantasmes, l'onirisme, mais surtout la rumination sur le passé, et le passé en général, sont la matière essentielle de toute narration post-exotique. » Ce passé, on le sait, n'est pas n'importe quel passé. C'est celui du siècle des guerres et de révolutions, prophétisé par Lénine, la collection, et je cite ici Volodine, des innombrables et innombrables atrocités qui composent le XXe siècle, et en contrepoint, la succession des révolutions ratées, ou vaincues, ou défigurées, qui auraient dû éviter à l'humanité son très sale destin. Un passé qui n'est donc pas tant saisi pour lui-même, que appréhender depuis le présent, un présent d'échec. Je cite toujours l'auteur. Nous regardons vers l'arrière depuis l'exclusion, depuis la défaite idéologique et militaire, depuis l'écrasement de tout espoir. Quelles que soient les personnalités de ceux et celles qui disent les livres, et quel que soit le sujet du livre, nos voix sont unies par ce même mouvement de l'esprit vers l'arrière. Si cette appréhension du passé depuis le présent peut bien apparaître comme un trait présentiste, fait également écho à ce régime d'historicité, le rôle essentiel que joue la mémoire dans l'univers post-exotique. Celle-ci est en effet à la fois le matériau premier des récits post-exotiques, le moyen très peu fiable, j'y reviendrai tout à l'heure, pour les personnages et les narrateurs par lesquels atteindre ce passé, et enfin un procédé efficace d'immersion dans la fiction pour le lecteur. Ce dernier trait, l'immersion dans la fiction par le lecteur, s'explique notamment par le fait que la mémoire dont il est question chez Volodine est avant tout une mémoire collective, constituée par l'ensemble des souvenirs communs aux individus qui ont traversé le XXe siècle. Mais le passé auquel nous nous référons, c'est toujours dans l'allocution intitulée « À la frange du réel », mais le passé auquel nous nous référons sans cesse est collectif. Collective est la mémoire dans laquelle nous enracinons nos histoires. On remarquera que l'auteur utilise ici tantôt le terme de mémoire, tantôt celui de passé, indiquant une superposition des termes que notre époque tend à considérer comme synonymes, comme le signale l'historien Henri Rousseau. Je cite, c'est dans la hantise du passé, « En fait, la mémoire constitue la dénomination actuelle, dominante, par laquelle on désigne le passé, non pas de manière objective et rationnelle, mais avec l'idée implicite qu'il faut conserver ce passé, le maintenir vivant. Et c'est bien cette exigence d'un lien vital avec le passé qui s'exprime dans l'œuvre volodinienne et qui se traduit exemplairement dans les récits par le fait que les personnages ne vivent que tant qu'ils se souviennent, ou plutôt, on verra, fabulent leurs souvenirs. Ainsi de Dondog, de Bruegel ou de Wilhelmsheimmann, pour ne citer qu'eux. Mais le rôle accordé par la mémoire, s'il peut se comprendre comme la manifestation d'un rapport vivant ou survivant au passé, est aussi le signe d'un rapport à l'histoire qui ne peut être que médiatisé. Pour les habitants du monde de l'après, que sont les personnages volodiniens, des personnages épuisés, l'histoire ne se donne plus à voir comme champ de l'expérience au présent, mais comme relevant de l'avoir été. Cette appréhension de l'histoire relève ici encore d'une saisie proprement contemporaine, et on peut trouver dans l'œuvre volodinienne plusieurs des procédés par lesquels un certain nombre d'écrivains se confrontent aujourd'hui à l'histoire. Patrick Modiano, Didier Deninx, Olivier Rollin, Michel Del Castillo, pour rester dans le domaine français. Après, je nuancerai et approfondirai ces références, mais pour l'instant, je l'énonce. Donc, je mentionnerai trois procédés majeurs qui, correspondant aux trois sens que Paul Ricoeur attribue à la trace dans la mémoire, l'histoire, l'oubli, s'intègrent dans une poétique des traces, emblématique du rapport médiatisé que notre époque entretient avec l'histoire. Tout d'abord, premier type de trace, la remémoration, qui renvoie à ce que Ricoeur nomme la trace mnésique, c'est-à-dire, je cite, « l'empreinte corporelle, cérébrale, corticale, telle que les neurosciences en discutent ». Deuxième type de trace, les traces matérielles du passé, documents, archives, témoignages, monuments, sur lesquels travaillent aussi les historiens. Enfin, dernier type de trace, la trace comme traumatisme, qui affecte le rapport du sujet au monde, l'impression, je cite Ricoeur, en tant qu'affection résultant du choc d'un événement dont on peut dire qu'il est frappant, marquant. Ces trois types de traces sont bien présents dans l'œuvre volodinienne. J'ai déjà évoqué plus haut le rôle central de la mémoire, mais on trouve aussi la thématique de l'archive, déclinée sur un mode fictionnel, et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, le monde post-exotique se dotant d'une mémoire écrite de la Révolution, qui est aussi une mémoire littéraire, comme en témoigne exemplairement le post-exotisme en Dilson, leçon 11. Enfin, c'est tout l'univers post-exotique qui naît du traumatisme de l'histoire, puisant sa source, comme on le sait, dans une mémoire collective blessée, partagée à des degrés divers, par tout lecteur contemporain, se faisant dès lors mise en mots, en images, non de faits précis, mais précisément de traces laissées par ceux-ci dans l'inconscient collectif. Subsistant à l'état de traces, nésiques, matérielles et affectives, l'histoire apparaît donc comme un héritage qu'il convient de recueillir et aussi et surtout de transmettre. L'idée de transmission est en effet centrale, thématisée entre autres par la circulation de la parole, et la figure du témoin qui fait passer, même sous une figure résiduelle, les lambeaux d'une mémoire collective. Dit les restes, cette injonction lancée par Bruegel à lui-même dans Nuit blanche en Valkyrie, et qui, comme l'a souligné Anne Roche, a valeur d'art poétique et de consigne morale, voire politique, pour l'ensemble de l'œuvre volodinienne, rend bien compte de cette attention au passé et à l'avenir que François Hartog propose d'appeler la double dette. D'un côté, il s'agit de prendre acte d'une historicité qui est celle de l'après, où la mémoire est omniprésente. De l'autre, il s'agit de sauver de l'oubli les événements marquants et traumatisants du siècle passé. On pourrait donc conclure que par les notions de mémoire, de trace, d'héritage, de transmission convoquées dans l'univers post-exotique, se dessinent les contours d'une historicité de type présentiste. Le présent post-exotique serait, lui aussi, un présent monstrueux, dilaté, où s'accumule un passé de défaites et de rêves généreux, et un avenir menaçant, entravé par le souvenir des horreurs déjà advenues. Cependant, plusieurs éléments sont restés en suspens dans cet exposé. Le type de mémoire convoqué dans l'œuvre post-exotique, le statut même de la remémoration et la fiabilité du témoin, la dimension fictionnelle des archives. Bref, tous ces éléments constitutifs de la fabulation de l'histoire à laquelle se livre l'auteur et qui pourraient fortement remettre en question quelques-uns des piliers de l'historicité présentiste, à commencer par le souci de vérité historique et le devoir de mémoire. C'est donc à ces grains de sable introduits par l'œuvre volodinienne dans les rouages du présentisme que je voudrais m'attacher en dernier lieu. Donc le présentisme au miroir du post-exotisme. On sait que l'œuvre entière de Volodine sollicite de façon toujours oblique et sans jamais restreindre la référence du propos à une situation historique déterminée, unique, le nombre de phénomènes traumatiques de l'histoire récente. Mais contrairement à d'autres écrivains contemporains que j'ai cités tout à l'heure, comme Olivier Rollin par exemple, qui, tout en recourant à l'autofiction, fait référence à une expérience historique très précise, contrairement à un Patrick Modiano qui exhibe ses documents, se plaçant sous le triple signe du réalisme, du témoignage et du document, Volodine choisit de déplacer des notions ou des événements historiques reconnaissables dans un univers radicalement autre, celui du post-exotisme. Cette fabulation de l'histoire, que Lionel Ruffel définit comme fiction à effet de fiction, soumet tous les indices censés établir une adéquation entre monde réel et monde de la fiction, nom de personnages, de lieux, événements historiques, temporalité et chronologie, sources et documents, à un décentrage qui a pour effet de brouiller toute référence précise. Je n'ai pas le temps d'approfondir ici ce point, par ailleurs bien connu et largement commenté. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les effets de cette fabulation sur les éléments présentistes que j'ai relevés plus haut. et en particulier sur deux types de traces évoquées, la trace mnésique et la trace matérielle. Tout d'abord, la trace mnésique, donc la remémoration. Les personnages et narrateurs volodiniens sont tous des révolutionnaires des faits qui ont une expérience de la lutte égalitariste et en font la matière du récit. Ces simples données devraient suffire pour en faire des figures de témoins emblématiques. Or, on sait bien qu'il n'en est rien. Tout d'abord, parce que leur mémoire est systématiquement présentée comme défaillante. On sait que Bruegel a subi une lobotomie. Dondog affirme dès les premières pages qu'il souffre d'amnésie depuis l'enfance. Parce que les conditions d'énonciation, l'interrogatoire ou la présence de l'ennemi invitent au mensonge, pensons par exemple au nom des singes, ou encore parce que l'invention, la fabulation, apparaît comme l'unique moyen d'échapper à des souvenirs douloureux. C'est le cas ici encore dans Dondog, où le personnage éponyme met en mots des fictions, des féeries, afin, je cite, « d'éviter le contact intime avec le noyau insupportable du souvenir », comme l'explique l'auteur dans un entretien avec Jean-Didier Wagner. La remémoration prend ainsi systématiquement une forme fantasmée et reconstruite qui redouble l'effet de fiction, induit par la distorsion des repères temporels et territoriaux, et mine toute velléité de rapprochement avec une littérature qui, à bien des égards, se révèle exemplairement présentiste, la littérature de témoignage. On est à mille lieues d'une littérature de témoignage, affirme sans ambages Antoine Volodine dans « À la frange du réel ». Je cite assez longuement. « On est dans la fiction inspirée, dans le fantasme, dans une réécriture fantasmatique de la mémoire collective. Mais en même temps, la narration n'adopte pas le point de vue étranger à la tragédie et au malheur. De façon non artificielle, la voix narrative part de l'intérieur du camp. En étant à l'origine prisonniers et prisonnières pour la perpétuité, les écrivains post-exotiques n'éprouvent aucune difficulté à s'incarner dans des perdants et à pénétrer dans le monde onirique des victimes. Ils se sentent habilités à développer des anecdotes du camp, un humour du camp, à explorer des camps qu'ils n'ont pas connus directement, mais qu'ils ont connus et connaissent intimement par délégation, par empathie, par incarnation. » Propos essentiel, en ce qu'ils rendent compte de la double entorse que l'écrivain fait subir à la littérature de témoignage et, plus largement, au devoir de mémoire que notre époque valorise. Non seulement la fiabilité du témoin est suspecte, en ce qu'il fantasme plus qu'il ne livre ses souvenirs, mais encore il s'octroie le droit de parler de ce qu'il n'a pas connu, et encore plus grave, pourrait-on ajouter, des camps, même si on sait qu'il s'agit dans l'univers post-exotique des camps de travail et non d'extermination. C'est que la question de la légitimité dans l'univers post-exotique, où les phénomènes d'empathie, de substitution physique, d'incarnation d'ordre chamanique remplacent, jusqu'à les annuler, les notions d'identité et d'altérité, tout simplement n'a pas lieu d'être. Les écrivains post-exotiques, et je cite à nouveau Antoine Volodine, n'ont pas à se poser la question de la légitimité, parce qu'ils ont combattu contre le responsable du malheur, ils se donnent la liberté de fantasmer sur le malheur et de faire sonner des voix fantasmatiques du malheur. Ce faisant, l'auteur désigne tout de même un processus de légitimation, parce qu'ils ont combattu le malheur, ils peuvent en parler, mais dont l'ancrage se situe non pas dans le monde réel, l'expérience vécue de l'histoire, mais dans l'univers post-exotique. La fabulation de l'histoire aboutit donc à une fictionnalisation des procédés par lesquels de nombreux auteurs contemporains expriment le rapport médiatisé qu'ils entretiennent avec celle-ci. C'est le cas de la mémoire, comme on vient de le voir, mais c'est aussi le cas des documents et des archives. Dans « Lieu de mémoire », Pierre Nora insiste sur l'obsession de l'archive, ce qu'il appelle la superstition et le respect de la trace qui caractérise notre époque et qu'Hartog intègre dans sa définition de l'historicité présentiste. On remarquera que cette obsession dans le champ littéraire a donné lieu à un paradigme narratif récurrent qui est celui de l'enquête, associant promotion des traces et référence aux documents historiques. Dora Bruder, de Patrick Modiano, représente bien cette mise en scène d'une mémoire archivistique, même si la fiction n'est pas totalement absente du récit. Les documents et les archives, on l'a vu, sont convoqués dans l'univers post-exotique. Mais il s'agit toujours, on le sait, de documents fictionnels, nés de la fiction, et non de documents importés du dehors dans la fiction. En ce sens, la fonction d'attestation, généralement attribuée aux documents d'archives, est inversée. Au lieu d'attester d'une quelconque vérité historique, les documents et les archives attestent du caractère foncièrement fictionnel du récit et plus précisément du désir de celui-ci de s'ériger en un monde autonome, producteur de sa propre histoire, de ses propres personnages et lieux, de sa propre mémoire et archives et, on l'a vu à l'instant, de ses propres instances de légitimation. Si l'univers post-exotique accueille donc en son sein des éléments du présentisme, c'est pour les vider de toute substance. C'est bien un passé filtré par la mémoire qui s'impose, mais par une mémoire fantasmée. Il y a bien des archives, mais fictionnelles. Bref, d'un même geste, est convoquée une historicité marquée par un rapport résiduel et médiatisé au passé, et sont évacués les moyens d'expression usuels par lesquels cette historicité se signale dans l'espace public, comme dans de nombreuses œuvres contemporaines. Le souci de vérité historique, la fiabilité du témoin, l'exposition des traces matérielles du passé. Quel sens donner alors à ce rapport paradoxal que le post-exotisme noue avec le présentisme ? Mon hypothèse est que cette relation contrastée non seulement permet de souligner les modalités multiples d'inscription de la question du ou des temps dans l'œuvre de Volodine, mais l'expression d'une dissidence de nature politique et idéologique qui se joue précisément dans un certain rapport à l'histoire, mais aussi au présent. Convoquer ce que l'auteur nomme la mémoire universelle du malheur, c'est de fait une façon de lutter contre une mémoire sélective, qui est celle du devoir de mémoire contemporain, davantage tournée vers les victimes que les vaincus de l'histoire, et qui, associée à des processus de construction ou de reconstruction identitaire, court le risque de servir des causes nationales, voire nationalistes. Examinons ces deux points. Tout d'abord, mettre en scène des militants égalitaristes défaits revient à donner droit de cité, droit de mémoire à une autre histoire, celle des révolutions, que certains voudraient conjurer, selon l'expression employée par Jacques Derrida dans Spectre de Marx au sujet du marxisme, c'est-à-dire à la fois considérée comme nulle et non avenue, et surtout qu'il faudrait empêcher de revenir. Dans cette perspective, la temporalité post-exotique, qui est celle d'un entre-deux, d'un après-la-fin qui serait aussi un avant-la-fin, peut se comprendre, et est comprise, comme cet espace de résistance au discours des fins. C'est le temps de la survivance qui enregistre l'échec des utopies, mais refuse de les enterrer. Ensuite, deuxième point, renvoyer à une mémoire universelle, c'est convoquer une mémoire internationale, étroitement lié à la revendication internationaliste des personnages et narrateurs post-exotiques. Je cite Antoine Volodine. Les écrivains post-exotiques se sentent en droit d'aller et venir sur tous les continents, sur tous les lieux de souffrance et de mort où l'humanité du XXe siècle n'a pas fait honneur à son espèce. La mémoire collective dans laquelle ils plongent ne se limite pas à la mémoire immédiate de leur génération et elle n'a aucune frontière. Elle est mongole, juive, russe, aussi bien que Quechua, oudmourte, chinoise ou berbère. Nous ne nous sentons exclus d'aucun malheur. Cette mémoire qui refuse les frontières empêche ainsi toute appropriation et manipulation de l'histoire à des fins identitaires et nationalistes et prévient également cette guerre des mémoires évoquée notamment par Benjamin Stora. En donnant ainsi une extension maximale au devoir de mémoire présentiste, l'écrivain non seulement marque ses distances, expose sa différence, mais encore en pointe les dérives et abus possibles. Dès lors, sa position à l'égard du présentisme n'est pas seulement révélatrice de sa façon de se situer face à l'histoire, en faisant surgir une autre histoire, mais face au présent, un présent présentiste, lui-même. Dans cette perspective, on peut voir dans l'univers volodinien une expression, on l'a rappelé ce matin, du contemporain ou sens où l'entend Giorgio Agamben, hein, reprenant la seconde considération de Nietzsche. Je cite Agamben, « Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à ses prétentions, et se définit en ce sens comme inactuel. » Mais précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. De fait, les récits post-exotiques sont à la fois mémoire du passé révolutionnaire et critique d'un présent qui tend à étouffer ou falsifier ce passé, mettant du reste très souvent en scène, en abîme, cette lutte des discours, celui de la fabulation révolutionnaire et celui de la fiction qu'impose l'histoire officielle. Et je renvoie à la communication de tout à l'heure, hein, c'est notamment visible dans Lisbonne Dernière Marge, le discours d'Ingrid, le récit d'Ingrid, hein, contestant l'occultation et la déformation de l'histoire opérée par la génération des pères qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Si sont donc dénoncés les dangers d'une réécriture de l'histoire au présent, on peut ajouter qu'est également pointé celui d'un aveuglement sur ce même présent. Tsvetan Todorov, dans Les abus de la mémoire, alerte sur le danger, je cite, d'un culte de la mémoire qui consiste à se détourner du présent tout en se procurant les bénéfices de la bonne conscience. Volodine semble avoir trouvé le moyen d'éviter cette sorte d'aveuglement volontaire et consolatoire par le biais de la fabulation qui vise à brouiller les références nationales et historiques, et empêche donc de rattacher de façon exclusive certains phénomènes ou événements du passé à un moment et à un contexte donné. Mais il fait plus en créant un monde post-exotique où le fascisme serait le capitalisme d'aujourd'hui, doté de tous les attributs totalitaires historiquement identifiés. Ce qui conduit ainsi Dominique Viard à affirmer, je cite, que le monde post-exotique, c'est le nôtre, celui de la globalisation néolibérale. Ainsi décrit, monde désormais sans ailleurs, il alerte le lecteur sur le totalitarisme de notre univers, masqué sous les allures de démocratie et de pluralité triomphante. L'originalité de Volodine tient alors, peut-on ajouter, à la façon dont s'opère cette dénonciation, en saturant l'espace du récit d'une mémoire révolutionnaire toujours vivante, il renverse les effets potentiellement négatifs de celle-ci. La mémoire, loin d'être effet de figement, cause de figement du passé et d'aveuglement du présent sur lui-même, se voit conférer un rôle dynamique de mise en relation du passé, du présent et de l'avenir. Au miroir du post-exotisme, le présentisme dévoile ainsi ses aspects les plus sombres. Une mémoire figeante, sélective, aveugle à une certaine histoire et aux possibilités de retour du passé sous d'autres formes, susceptible d'être récupérée par des idéologies nationalistes, entre autres. Parce que le présent se voit défini comme ce temps pour le moins inconfortable qui se situe entre la fin des utopies et l'annonce de l'extinction de l'humanité dans la barbarie primitive du capitalisme, un temps donc non pas de la catastrophe mais de l'entre-deux catastrophes, on pourrait dire que le présentisme y apparaît dans sa vision la plus noire, cauchemardesque, ce qui ferait peut-être dire aux étudiants d'Anne Roche que finalement les livres d'Antoine Volodine sont tristes. Mais ce serait oublier que, pour Volodine, et là je cite une interview donnée dans un entretien dans la revue Prétexte, « Le pessimisme le plus lugubre et le désastre absolu sont une patte inerte avec quoi on peut façonner des objets extrêmement lumineux. » Si l'on ne peut en effet négliger le fait que le futur imaginé par Volodine est informé par le passé et un passé d'échec, n'oublions pas que la conscience de la défaite des révolutions réelles du passé n'empêche nullement l'écrivain, les personnages et narrateurs post-exotiques, de reconduire l'utopie révolutionnaire et d'y voir, encore à l'heure actuelle, une façon de résister à l'ordre capitaliste dominant. En ce sens, la mémoire de l'échec ne donne pas seulement lieu dans la fabulation post-exotique à une représentation de l'avenir comme ce qui revient, mais aussi à une prise de position au présent, de l'écriture et de la lecture. C'est ce que donne notamment à voir « Songe de Mévlido », où l'auteur imagine qu'au XXIIIe siècle, à l'époque du capitalisme généralisé et du réchauffement climatique, les seuls partisans de la révolution ne sont rien d'autre que de vieilles femmes insanes hurlant à tue-tête des slogans inaudibles. Ce faisant, c'est la responsabilité du lecteur au présent qu'il sollicite et la sienne qu'il met en gage, sous la forme d'une dette à l'égard de l'avenir. Un passage de ce livre me semble rendre compte de la volonté de l'écrivain de résister au présent, à la fois aux fallacieuses promesses des lendemains qui chantent et aux sirènes du capitalisme triomphant assurant qu'il n'y a plus d'histoire. Dans la tentative désespérée des insanes de commettre des attentats contre la Lune, on peut lire le geste de l'écrivain qui, sachant le combat perdu d'avance, ne se résout pas à y renoncer, même si ce n'est que, et c'est beaucoup, pour le raviver dans une forme fantasmée au sein d'un monde imaginaire où la lune, qu'on ne cherche plus à décrocher, serait au contraire prise pour cible. Je cite le roman. Même les plus décidés d'entre nous désormais flairaient dans toute action à la vanité d'agir. Nous savions que l'épuisante modification du climat se poursuivait, que l'été s'élargirait encore, atteindrait 12 mois par an et même plus, et que notre vie serait à jamais peuplée d'araignées et de décès et de moments d'inconscience ou de semi-conscience. Nous pressentions qu'il y avait bien peu de chances d'un jour connaître l'aube ou le réveil. Les attentats contre la Lune ne nous apaisaient pas, ils ne contrariaient pas notre tendance à sombrer fou. Mais à nous, qui n'avions plus de ressort, plus de rigueur idéologique, plus d'intelligence et d'espoir, ils donnaient l'impression qu'à l'envers du décor, peut-être, l'existence avait gardé une ébauche de sens. Miroir déformant du présentisme, le post-exotisme en constituerait ainsi, en ultime instance, le refuge, un lieu, comme il est dit dans Les Anges mineurs, où les hommes peuvent se reposer un instant pour entendre les voix des disparus qui résonnent encore et qu'il ne tient qu'à nous d'accueillir, ici et maintenant. Je vous remercie.
Merci pour cette défense et illustration du présentisme.
Nuancé quand même.
Oui, ouais, nuancé au point que finalement, j'ai plus l'impression à la fin de ton exposé qu'on est en désaccord sur la question, même si effectivement tu remets en perspective par rapport à une définition beaucoup plus élaborée que celle que nous avions retenu dans l'avant-propos du Défense et l'illustration, mais où finalement les aspects négatifs du présentisme qu'on soulignait réapparaissent dans ta troisième oui. partie. Donc voilà. Le seul point de discussion, mais j'y reviendrai, je vais d'abord laisser la parole à la salle. Ce sera sur la question du témoignage qui ne me paraît pas forcément si présentiste que tu l'as proposé.
Non, mais d'ailleurs, j'en parle surtout dans la troisième partie où je nuance le présentisme.
Bon, on en reparlera, mais voilà. Donc, je vous en prie, à vous. Philippe Roussin.
Oui, merci. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit de l'œuvre de Bonneville. Et en même temps, je me demande si on ne peut pas si au fond tout ce qui est dit, tout ce que vous avez dit, en termes d'avis, ne doit se passer de la référence à Hartog. C'est-à-dire, au fond, quel est le gain de la projection d'une problématique interne d'historiographie sur les études littéraires. Parce que, même. Bon. Il y a un moment où. La notion de présentisme, ça sert aussi à confirmer la notion de contemporain. Bon. C'est aussi quand l'histoire est en présent. Et donc. Que devient là, comme ici on parle de fiction contemporaine, que devient la notion de contemporain Hartog ne permet pas d'y répondre, donc Agamben vient, mais Agamben et Hartog sont pour moi des références là exclusives l'une de l'autre. Enfin, donc il y a. Voilà, autant au niveau d'analyse, je suis d'accord, autant au niveau du recours, l'importation d'un modèle historiographique sur les. Nos études littéraires, ça pose problème. Et notamment parce que la question du contemporain ne peut pas venir.
Mais je pense que dans la définition qu'en donne Hartog, le présentisme, c'est le nom de notre contemporain et du rapport contemporain qu'on entretient à l'histoire. Et à partir du moment où on s'intéresse à l'écriture de l'histoire dans l'œuvre littéraire, je ne trouvais pas incongru de faire référence à la façon dont les historiens pensent l'histoire, le rapport contemporain que nos sociétés entretiennent avec l'histoire, et je trouve que certes, ça donne, disons, une configuration d'époque à l'œuvre de Volodine et à d'autres œuvres, et je trouve que c'est un moyen assez intéressant et pertinent pour mettre en rapport précisément des œuvres qu'on ne met pas en rapport. Modiano et Antoine Volodine, par exemple, qui sont considérés comme aux antipodes, ou en tout cas qui le sont parfois, parce qu'ils traitent d'un rapport à l'histoire qui finalement est assez proche, mais selon des configurations et des écritures assez différentes. Voilà. Donc je trouvais que c'était un outil... dans l'optique qui était la mienne dans ma thèse de comparatiste, qui permettait de légitimer une approche d'auteur de sensibilité et d'écriture différente.
Oui. Mélanie Lamarre.
Une petite remarque à propos de l'opposition que tu as construite à la fin. Quand tu as parlé donc de Volodine qui est, maintiendrait vivante en fait une mémoire internationaliste et révolutionnaire contre le devoir de mémoire contemporain qui lui risquerait d'alimenter les nationalismes. En fait, dans cette présentation un peu binaire, je trouve qu'il manque quand même des éléments qui pourraient être intéressants de relier à ce que nous dit l'œuvre volodinienne. Tout d'abord, le communautarisme, qui est le plus grand, enfin un des plus grands dangers de notre temps. Ça ne me semble pas être obligatoirement le nationalisme, mais le communautarisme qui travaille de l'intérieur les pays contre une forme de nationalisme. Et puis également la volonté de destruction par le capitalisme néolibéral, hein, le néolibéralisme, précisément la destruction aussi des frontières nationales. Hein, il y a une volonté aussi de lutter contre les nationalistes de la part du projet néolibéral. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, de ces éléments-là qui définissent aussi notre époque? Comment tu places l'œuvre volodinienne par rapport à ça? Parce qu'il me semblait que dans ton opposition, on avait un petit peu Volodine supérieure, Volodine, le camp du bien qui défend l'internationalisme contre le camp du mal qui serait les nationalismes, le danger de notre époque. Mais il y a quand même d'autres dangers, et c'est pas neutre, de défendre quand même l'idée de la révolution aujourd'hui. Tout le monde ne serait pas forcément d'accord non plus. Donc, il me semble qu'il y a énormément de jeux, là, d'opposition qui se jouent dans le contemporain, que peut-être la notion de présentisme là ne nous permet pas d'aborder. Je sais pas ce que tu en penses.
En fait, je voulais pas faire du devoir de mémoire la ligne directe menant au nationalisme, hein, c'était pas ça du tout. Ce que je voulais montrer, c'est que. Certaines dérives possibles, potentielles du devoir de mémoire, trouvaient une réponse dans l'œuvre volodinienne. Et finalement, nationalisme et communautarisme ont pour point commun d'être des replis identitaires. Donc moi, j'ai mis l'accent sur le nationalisme, mais je pense qu'on peut faire une analyse du communautarisme en termes assez équivalents de replis identitaires, en fait. Voilà, donc on reste contre l'internationalisme. De toute façon.
Thierry Saint-Arnoux.
J'ai envie de répondre plutôt à la question qui a été posée par rapport à. En appuyant sur Jacques Rancière, c'est-à-dire cette idée que si on fait une coupure, enfin, si on abandonne la coupure du social, c'est-à-dire la lutte des riches, la lutte des puissants, enfin, contre les puissants, la lutte entre les pauvres et les puissants, la lutte des classes, hein, pour dire des gros mots. Donc si on abandonne ça, pour Ancien, il y a deux partages possibles dans la société. Si ce n'est pas le social, ce sera l'ethnique. Si ce n'est pas ça, ce sera le repli nationaliste, ce sera le repli communautariste, et je suis tout à fait d'accord avec la réponse. Donc, et j'ai l'impression qu'on voit très bien ça chez Antoine Volodine, l'abandon petit à petit de la dimension de la coupure sociale à l'intérieur de la société qui n'est plus déterminante, petit à petit provoque des génocides, provoque ce type de violence. Donc voilà, c'était juste une remarque comme ça.
Merci. Une autre intervention ? Alors revenons à la question du témoignage parce que je suis assez partagé sur cette question du propos même d'Antoine Volodine que tu as cité pour dire pour se démarquer de je ne fais pas une œuvre testimoniale, etc. Parce qu'évidemment, évidemment, il ne s'agit absolument pas de dire que l'œuvre de Volodine est une œuvre de témoignage. Bon. Mais par contre, il me semble, et bon, c'est quelque chose que j'essaierai de développer dimanche prochain, que sans cet arrière-plan testimonial, il est difficile de penser la littérature carcérale. C'est-à-dire que, pas simplement au niveau diégétique, mais plutôt au niveau énonciatif, pour faire une distinction qui était faite tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de régime artistique, c'est, les témoins des crimes de masse du XXe siècle ont réfléchi à la façon dont ils devaient produire leurs témoignages et ça a donné une réflexion sur ce mode d'écrire, sur cet art d'écrire qu'il devait mettre en place et qui a été parfois jusqu'à un refus de la littérature chez un Chalamov par exemple qu'a beaucoup lu Antoine et il me semble que le post-exotisme tout en n'étant pas une œuvre de témoignage est impensable sans cet art d'écrire du témoignage qui a été et par ailleurs pour ce qui est de dire que le témoignage serait de l'ordre du présentisme alors il y a quand même un moment dans ta deuxième partie alors peut-être que tu vas me rappeler ce que tu as dit dans la troisième partie qui est nuancé mais il me semble que il y a une dimension politique du témoignage qui peut aussi aller dans le sens de la critique politique et idéologique du post-exotisme. Donc voilà, c'est juste sur ces points-là que...
Oui. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que sans doute, il y a bien une volonté, une fonction testimoniale du récit. Et ce que j'essayais d'indiquer, c'est que la forme du récit, mais bon, tout le monde le sait, ce n'est pas celle du récit de témoignage. Donc moi, c'était plutôt une remise en question du témoignage, la figure du témoin importante, valorisée, qu'on retrouve dans les textes, mais qui ne donne pas lieu à un récit de témoignage tel qu'on peut le retrouver dans des littératures qui ont un souci de réalisme et de documentation historique, en fait. Mm-hmm.
D'accord. Bruno Blankmann. Hein.
Oui, pour rebondir sur ces questions, il me semble que c'est plus la figure du témoin mise en abîme à l'intérieur même d'un récit qui sera un récit de témoignage second. Hein, c'est ce qui recouperait peut-être la pensée que de Célan, tel que quelqu'un comme.
Témoin du témoin.
Voilà, qui témoigne pour le témoin. Il me semble que dans les effets de mise en abîme. Qui sont multiples dans les romans de Volodine, il y a aussi peut-être même la figure du spectre par rapport à celle de la figure lazarienne.
Oui, alors là, ouais. On va y revenir très sérieusement sur Lazare, avec Catherine Cocchio dimanche prochain, je pense. Mm-hmm. Tout à fait. Ah oui, bah le romanesque lazaréen de Kérol est aussi, c'est ce qu'a montré Marie-Laure Basuio dans sa thèse qui a été publiée sous le titre Témoigner clandestinement, je crois, chez Garnier, les classiques Garnier, et qui montre justement aussi que il y a un mode indirect du témoignage chez Kérol. Qui ne veut pas produire un récit de témoignage, mais dont les fictions sont complètement imprégnées de lecture des témoins. Voilà. Et effectivement, c'est aussi un rapprochement que j'avais déjà un peu tenté entre le mode du post-exotisme, enfin, l'art d'écrire du post-exotisme et le romanesque lazaréen de Kérol, oui.
Alors, juste une dernière précision, parce que c'était un peu le sens de la question, la première question. Tous les éléments que j'ai indiqués, hein, la mémoire, le document, les archives, je voulais pas dire du tout qu'ils ne sont présentistes. Ce sont des éléments qui convergent dans une certaine historicité qui est le présentisme. Mais il ne s'agit pas de tout d'un coup découvrir la figure du témoin et dire ça c'est du présentisme. Hein, c'est plutôt l'idée d'une, voilà, d'un prisme qui rassemble différents éléments convergents. Donc,
tu vas me dire si je me trompe dans la réception de ce que tu as dit. Est-ce que quand tu parles de, d'une réception présentiste du témoignage, c'est pas justement ce qui va dans le sens du devoir de mémoire, du plus jamais ça, de la commémoration vaine finalement, parce que simplement une sorte de comment dire de pardon d'incantation, ouais c'est ça. Et qui serait juste sans aucune perspective de critique des conditions qui ont amené le crime dont il est question.
Oui, et sans réinvestissement dans le présent, d'où l'aveuglement dont j'ai parlé, et de projection en l'avenir.
D'accord. Oui, alors, vous pouvez donner votre nom.
Ce matin est déjà apparu le mot bouddhisme. On a parlé tout à l'heure de l'hasard. Je dois savoir la place du religieux. Est-ce qu'on va travailler ça dans la suite du colloque? Quelle est la place du bouddhisme? Ça a été prononcé ce matin, ça vient d'être prononcé maintenant. L'hasard est le christianisme. Est-ce que ça va être évoqué, y compris peut-être les religions laïques politiques?
Je vais réviser mon calendrier de colloque.
Je
ne
l'ai pas vu apparaître.
Est-ce que quelqu'un dans la salle a une réponse? Oui.
Cet axe précis,
dès demain après-midi, par Guillaume Asselin. Nous devrions déjà avoir quelques éléments. C'est vrai qu'il est quand même question de prairie des images et de fantastique transcendantale dans le titre. Guillaume n'a peur de rien. Voilà. Mais non, il ne sera pas question forcément de bouddhisme, mais de chamanisme plutôt. Mais bon, c'est poreux entre chamanisme et bouddhisme. Et quant au christianisme, Lazare, alors attention, hein, parce que Lazare est une figure qui est employée par Kérol, pour désigner la figure du rescapé, et qui est quand même si Kérol a une culture chrétienne, qui est quand même désancrée du référent chrétien. Et Pierre Ouellet avait fait, il l'a évoqué ce matin, mais il a évoqué qu'il l'avait déjà fait, la référence au christianisme, et dans un article qui est apparu dans un numéro de la revue Europe. Pierre, tu vas me rappeler le titre parce que de ton article sur il est là. Il n'est pas là. Bon, alors, voilà. Mais c'est dans un numéro de 2007 de la revue Europe. Il est question de cette référence à la figure de la crucifixion, notamment, dans les chagas qui se trouvent à l'intérieur de nos animaux préférés. Je ne me trompe pas, hein. Il est bien question de chaga dans mes animaux préférés. Voilà, j'ai essayé de répondre. Jean-Pierre Vidal.
Je me demande si on n'est pas en train de tourner autour de ce que j'appellerais, moi, dans mon vocabulaire, le dynamisme produit par la double fonction contradictoire de la mise en abîme. La mise en abîme ou le devoir de mémoire répercute, mais en même temps distancie. C'est un peu le paradoxe de la variation musicale aussi.
La variation musicale dont on parle,
est une répétition, et en même temps, c'est l'eau dans la répétition. Et je crois que le rapport au passé, surtout du point de vue du présentisme envisagé comme gros en quelque sorte, et du passé et du futur, peut se schématiser par, il y a une formule qui me vient, ça, il y a à peu près 20 ans, Barbara Cassin a organisé un colloque sur l'héritage des Grecs, histoire de l'Occident, hein. Et le titre du colloque, moi, me paraît très révélateur, c'était « Nos Grecs et leurs modernes ». Et c'est effectivement ça le rapport, c'est-à-dire que dans ce qu'on choisit du passé, on se retrouve défini par ce passé même. Il y a une interaction là. Et je crois que c'est aussi un travail de mise en abîme, ça.
Oui, oui, mais c'est le passé vu par le présent, ouais. En fait. Donc il y a un filtrage. Et ça rejoint d'ailleurs ce que dit Pierre Nora, hein, que convoque beaucoup Hartog dans le présentisme. Nora qui évoque la mémoire omniprésente dont nous serions... il définit la mémoire comme archivistique, comme obsessionnelle et comme une mémoire distance. Ce qui est paradoxal, puisque c'est une mémoire omniprésence, mais qui, précisément, nous ferait comprendre ce que l'on n'est plus. Donc là, ça rejoint assez bien cette idée de mise en abîme.
Et on est directement dans l'énonciation, à ce moment-là. Dans le travail, dans la dynamique de l'énonciation. Mais enfin, j'arrête parce que moi, toutes mes interventions, je suis en train de détruire ma communication. Alors, à partir de maintenant, je ne parlerai plus.
Eh ben, on va peut-être pouvoir s'arrêter après cette longue journée. Je vous remercie tous. Nous avons pause jusqu'à 19h30. Et donc, il y a la lecture d'Antoine Volodine au grenier, où un auteur sera derrière une table pour nous faire découvrir des textes inédits.